7h28, c'était extrêmement attendu hier. Les réactions, les commentaires, le résumé du secrétaire américain à la justice, William Barr, qui a pris le rapport Mueller, qui a donc enquêté pendant 22 mois sur une possible collusion entre l'organisation électorale de Donald Trump et les Russes, avec comme objectif de manipuler le résultat de l'élection présidentielle. La conclusion, il n'y a pas de trace donc de cette collusion. Et à la deuxième question, est-ce que le président a tenté de faire entrave à la justice, obstruction à la justice? La réponse est plus ambiguë. En gros, je n'en ai pas la preuve, mais je ne peux pas pour autant le libérer complètement. Donc, on est un peu entre les deux. Et vous avez vu la réaction du président Trump, qui crie évidemment à la victoire. Charles-Philippe David est avec nous ce matin. Bonjour Charles-Philippe.
Bonjour Paul.
Alors, il faut comprendre qu'on n'a pas vu le rapport Mueller au complet. On a ici le résumé, un document de 4 pages qui a été transmis aux membres du Congrès.
Et oui, voilà, ce rapport fera certainement plusieurs centaines de pages. Paul, il contiendra bien plus d'informations que celles qu'on a présentement. Mais disons que déjà, le sommaire qu'offre le ministre de la Justice, William Barr, doit évidemment plaire énormément à Donald Trump, qui voit ce matin ses problèmes diminuer considérablement sur ses chefs d'accusation de collusion qui lui collaient à la peau depuis presque 2 ans. Maintenant, ça ne veut pas dire que le président est sorti de l'auberge, pas du tout. D'autres enquêtes continuent. Le district sud de l'État de New York continue de faire enquête. Les commissions du Congrès vont continuer d'enquêter sur un certain nombre d'autres sujets. Et comme vous l'avez dit, on n'a pas du tout réglé cette question de l'entrave à la justice, qui nous laisse d'ailleurs complètement sur notre faim, le procureur spécial Robert Mueller, refusant de prendre au fond position en disant oui ou non, un peu à l'instar de la collusion, le président des États-Unis a agi de façon inappropriée.
Bon, sur l'intervention russe dans la campagne électorale de 2016, là, c'est clair, les Russes donc ont joué un rôle. Il n'y a personne qui remet ça en question. Là.
Il n'y a personne qui remet ça en question. Déjà, souvenez-vous, les services de renseignement américains, dès le début de l'année 2017, avaient informé les deux présidents, Obama sortant et Trump qui arrivait, de cette ingérence russe dans les élections américaines. Et cela n'est pas du tout, au contraire même, contredit par tout le travail qui a été fait, parce qu'il ne faut pas l'oublier, de Robert Mueller durant les 2 dernières années. Quand même plus d'une 30aine de personnes ont été mises en accusation, dont plus d'une 20aine de Russes qui ont travaillé contre le système électoral américain et nuire aux chances de Hillary Clinton. Et j'aimerais aussi quand même bien souligner une chose très importante, c'est une nuance légale, mais elle est importante. Le rapport Mueller semble donc indiquer qu'il n'y a pas eu collusion avec le gouvernement russe, mais il ne dit pas qu'il n'y a pas eu collusion avec les Russes. Et on pense donc à beaucoup de gens qui, à titre privé ou des individus agissant pour le compte du régime, mais qui ne sont pas des officiels, ont été en contact avec les membres de la campagne Trump. Et cela a été prouvé par Mueller lui-même et par d'autres enquêtes. Voilà pourquoi Trump n'est quand même pas complètement sorti du bois.
Bon, parlons plus en détail de ces gens, là, de l'entourage de Donald Trump, de l'organisation Manafort, également d'autres qui ont été soit arrêtés, condamnés, d'autres qui collaborent avec la justice. Ces gens-là l'ont fait avec des Russes, donc des contacts avec des Russes, mais dans quel contexte pour les affaires courantes de l'organisation Trump, sa compagnie, sur le plan politique, on parle de quoi?
J'ai un peu l'impression qu'on parle, excusez-moi peut-être l'analogie, mais enfin de la mafia. C'est un peu comme un tas de gens tout croche qui travaillent pour vous et qui sont accusés par des cours et par le procureur de s'être, à titre d'exemple, de s'être enrichi personnellement en fraudant les lois et aussi en mentant, se parjurant contre dans leur déposition, par exemple au Congrès. Et évidemment, on n'est pas capable de faire le lien direct entre ces gens-là et le grand patron, le président des États-Unis. C'est pourquoi, évidemment, Trump se sent très bien ce matin. Vous avez raison de souligner les proches de Donald Trump. Ni son fils, Donald Jr., et ni son gendre, Jared Kushner, à titre d'exemple, ne sont accusés ou mis en accusation par Robert Mueller. Ça, Paul, ça aurait été la plus mauvaise nouvelle pour le président si ces deux personnes en particulier avaient été pointées du doigt dans le sommaire offert par William Barr. Là, on aurait pu parler un petit peu des mêmes analogies qu'on a fait avec le Watergate. Ce n'est pas le cas actuellement. Donc, beaucoup de gens ont profité de Donald Trump pour s'enrichir, violer les lois et mentir. On n'a pas prouvé que le président lui-même avait fait et commis ses actes.
Comment interpréter la position au sujet de la possible entrave à la justice? C'est-à-dire, évidemment, l'ancien directeur du FBI qui dit « Il a voulu me mettre de la pression pour que je stoppe l'enquête sur cette histoire-là de collusion avec les Russes. » Quand oui. Il dit j'en ai pas la preuve, mais en même temps, je peux pas l'innocenter complètement. »
C'est la question, Paul, qui sera posée cette semaine. Je suis certain que cette question-là sera probablement la question de l'heure. Déjà, James Comey, souvenez-vous, son ancien directeur du FBI a écrit hier, a tweeté encore beaucoup de questions. Je pense qu'il y a beaucoup de questions qui seront posées, notamment par les démocrates, mais par tous les journalistes aussi, pour comprendre le sens et la signification de ce qu'a écrit, alambiqué Robert Mueller en disant « Peut-être que oui, peut-être que non, je n'ai pas de preuves suffisantes pour accuser le président, mais je ne dis pas non plus » qu'il n'a pas exercé de manière indue son pouvoir pour entraver le cours de la justice. Ça nous laisse vraiment sur notre faim, cette question-là, et je pense qu'on en saura beaucoup plus lorsque le rapport lui-même sera disponible pour que tout le monde, vous et moi, puissions nous faire notre idée sur cette question de l'entrave à la justice. Les soupçons, quand même, planent encore sur Donald Trump. Le rapport ne dit pas clairement qu'il n'a pas entravé le cours de la justice.
En terminant, que vont faire les démocrates?
Les démocrates sont en situation très délicate, Paul, ce matin. S'ils continuent d'accuser le président de collusion, ils pourraient un peu creuser leur trou et se mettre dans une situation ou se placer dans une situation très, très difficile. Clairement, je pense, ce matin, on est beaucoup plus loin de toute cette affaire de la destitution qu'on n'a jamais été. Autrement dit, je pense qu'à moins d'une grande surprise, il faut oublier ça. Les démocrates, d'ailleurs Nancy Pelosi l'a dit la semaine dernière, ne voudront pas entamer des procédures quelconques d'examen du président pour l'accuser et donc paver la voie à la destitution. Je pense qu'il faut oublier ça. Je pense que ce matin, les démocrates réalisent qu'ils ont un adversaire. Ce sera le même en 2020. Donald Trump, regaillardi et très motivé d'ailleurs, pour aller en campagne électorale. Il reste un problème pour les démocrates, c'est qu'avec plus d'une quinzaine de candidats, ils doivent faire le bon choix, et ce n'est pas du tout évident, un, qu'ils sont capables de faire ce bon choix, et deux, que le choix sera le choix approprié pour affronter Donald Trump. Ça promet une saison électorale, Paul, d'une année et demie absolument levante.
Merci beaucoup, Charles-Philippe David, qui est professeur à l'UQAM, mais également président de l'Observatoire sur les États-Unis. 7h37.